Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire consacrée à Attila et à la violence nomade. Je suis heureux de recevoir au micro de Canal Académie Michel Rouche. Michel Rouche, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes médiéviste et vous avez étudié une période bien particulière de notre histoire. Il s'agit d'une période de transition, une période charnière, puisqu'il s'agit de la fin de l'Empire romain et du début de ce qu'on appellera plus tard le Haut Moyen-Âge. Alors, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, plusieurs ont été d'ailleurs primés par l'Académie française ou l'Académie des sciences morales et politiques. Je citerai simplement le Clovis aux éditions Fayard. J'ai également, pour réaliser cette émission, reçu votre livre « Le choc des cultures, romanité, germanité, chrétienté durant le Haut Moyen-Âge ». Il s'agit d'un livre paru aux éditions universitaires du Septentrion, les éditions donc à Lille. Et c'est un thème, finalement, qui rejoint pleinement votre dernier ouvrage, paru, lui, aux éditions Fayard, à nouveau, « Attila, la violence nomade » en sous-titre. Alors, Michel Rouche, ma première question de tradition, la première question à Canal Académie au micro d'Un jour dans l'histoire, c'est une question sur l'historiographie et sur les sources. Au fond, Attila est un cas spécifique parce que des sources écrites, nous n'avons que l'avis romain. Comment remettre en place le puzzle? Comment réussir à connaître cette civilisation nomade qui nous vient de l'Est?
On ne connaît effectivement Attila et les Huns que par les historiens de l'Empire romain d'Orient et de l'Empire romain d'Occident, qu'il s'agisse d'auteurs grecs ou d'auteurs latins, parfois d'auteurs syriaques. Mais effectivement, nous n'avons qu'un point de vue unilatéral dès le départ. Heureusement, nous pouvons commencer à compenser cet aspect unilatéral des sources par le recours aux sources archéologiques. Depuis la chute du mur de Berlin, nous avons un accès de plus en plus abondant aux fouilles archéologiques soviétiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques d'Europe de l'Est en général, et même aux fouilles archéologiques aux frontières de la Chine occidentale. Et du même coup, nous pouvons réenvisager l'explication de nos textes d'une autre manière. Nous pouvons réajuster les textes des historiens, si possible contemporains du 5e siècle, pour essayer de mieux comprendre ce phénomène qu'a été la violence nomade et cette ruée des tribus nomades depuis les frontières de la Chine jusqu'en plein cœur de l'Europe, du 5e au 11e siècle pratiquement. Et par conséquent, nous sommes dans une situation nouvelle, y compris au point de vue des historiens grecs, puisque dans Attila, j'ai donné pour la première fois la traduction en français d'un texte prodigieux, l'ambassade de Priscus en territoire des Huns. Et là, nous avons un grand reportage en 449 qui est absolument extraordinaire puisque Priscus nous décrit de l'intérieur la civilisation des Huns, le système politique des Huns, le comportement des Huns et le comportement d'Attila. En général, c'est une plongée unique dans l'atmosphère de ces tribus nomades.
Mmh. Je reviens quand même sur cette chute du mur de Berlin. C'est extraordinaire puisque nous fêtons maintenant les 20 ans de cet anniversaire. Il y a eu une véritable révolution historiographique à la suite de cette chute du mur de Berlin. Le sujet, les sujets liés à ces peuples ont été complètement renouvelés.
Tout à fait, étant donné que les Soviétiques ont lancé des campagnes de fouilles archéologiques dans tous les pays du Comecon, et dans un but très précis, il s'agissait en particulier pour la Pologne, où les fouilles ont été sensationnelles, de prouver que l'histoire de la Pologne commençait avant le baptême de la Pologne par Mieszko. Et c'était la même chose pour l'histoire de la Russie. Il fallait prouver qu'avant l'arrivée des Suédois en Russie, à Kiev, il y avait des habitants slaves qui étaient installés auparavant. Ce qui fait que ces fouilles scientifiques ont été très, très, très intéressantes, malgré l'idéologie qui les lançait à l'assaut des sols et de la découverte intérieure de ces tombes. Et finalement, nous faisons des découvertes extraordinaires grâce aux résultats de ces fouilles qui ont été menées d'une manière remarquable.
Alors, pour connaître cette civilisation, puisqu'on peut parler de civilisation, il faut connaître la Terre, l'espace géographique. Quelles sont les caractéristiques de cette Terre ?
Le biotope des steppes est en effet tout à fait unique en son genre. C'est une véritable bande de terre herbeuse depuis les frontières de la Chine jusqu'en plein cœur de la Hongrie actuelle. Et il y a un climat, il y a un mode de vie qui s'impose complètement dans cette terre des herbes. On ne peut pas vraiment pratiquer une agriculture sédentaire. On est obligé de pratiquer un pastoralisme itinérant qui est organisé par des tribus et qui ont choisi ce mode de vie, qu'il s'agisse d'un nomadisme transhumant horizontal ou même vertical dans les montagnes des Tian-Shan, du Caucase et des Carpates. Par conséquent, c'est un mode de vie très curieux avec une plongée des tribus de cavaliers dans un mode de vie végétal et animal où la pyramide écologique est littéralement dominée par les grands prédateurs que sont les loups et les aigles.
Alors vous dites très vite, vous le dites à la page 27, la notion romaine de propriété du sol échappe complètement aux nomades. Et donc on comprend d'emblée finalement ce qui oppose ces deux civilisations.
C'est vraiment un autre mode de vie. Le nomade n'est pas attaché à la terre. Il n'exprime dans ses désirs et dans sa volonté de puissance que la possession d'objets mobiliers. D'où le rôle extraordinaire que jouent les bijoux ornés de pierres précieuses, en or, en argent. La richesse étant mobilière, nous avons ici une opposition complète avec le mode de vie romain. Vous savez qu'en droit romain et en droit français encore aujourd'hui, res mobilis, res vilis, un bien meuble, ce n'est pas quelque chose d'important, et possession vaut titre. Donc on n'a pas besoin de prouver la propriété d'un objet mobilier dans une civilisation sédentaire. Dans la civilisation nomade, c'est exactement l'inverse. Seul compte la propriété mobilière, les troupeaux de bestiaux, les chevaux, les chariots, les femmes, les enfants, etc., etc. Ce sont tous des biens meubles et c'est pour ces biens meubles ou pour les acquérir que l'on se déplace ou que l'on se bat.
Alors, ces éléments naturels, cette steppe, rendent-ils cette civilisation fragile ?
Oui, elle est fragile parce que la dureté du climat fait qu'il peut y avoir de mauvais hivers, qu'il peut y avoir des épisodies, qu'il peut y avoir brusquement des famines qui se déclenchent dans ces tribus, lesquelles ne peuvent plus trouver qu'un seul moyen pour survivre, s'attaquer aux voisins, s'attaquer aux autres. Et par conséquent, le passage de l'élevage nomade à la violence conquérante est absolument insensible. La violence et la virilité ne font qu'un, ces tribus gagnent leur pain en l'arrachant aux autres.
Alors, c'est une civilisation toujours en mouvement, nous l'avons dit, et c'est pour cette raison que pour qualifier finalement ces tribus, l'historien est dans la difficulté. Vous parlez vous-même de nébuleuses tribales. Il est difficile de trouver les contours de ces tribus.
C'est exact, parce que les parentèles, les familles larges qui se regroupent à 20, 30, 40, 50 ont besoin de s'allier aux voisins pour résister aux adversaires ou pour conquérir. Mais les liens qu'ils construisent entre eux sont des liens d'homme à homme, sont des liens de serment, sont des liens d'engagement à la vie et à la mort. Et pratiquement, étant donné les dangers que courent ces hommes et ces femmes, ces alliances ne tiennent pas longtemps. Donc, les agrégats de tribus se font et se défont au gré des événements et selon le choc des aventures ou bien la défaite. La défaite détruit immédiatement une association de tribus qui s'éparpille de tous les côtés pour sauver leur vie.
Alors vous les citez, les Sarmates, les Scythes, et vous citez une tribu qui est assez étonnante, que l'on n'attend pas ici, dans cette partie du monde, ce sont les Amazones.
Oui, parce que ces tribus qui sont confrontées continuellement au problème de la survie. Pour arriver à survivre, il faut avoir des troupeaux, avoir des enfants, donc avoir des femmes. Et le rôle des femmes est absolument capital, puisque dans ces structures tribales primitives, les femmes sont encore plus ardentes à conserver les enfants, et donc à avoir des enfants, et donc à construire des structures anthropologiques qui n'ont rien à voir avec la structure anthropologique de l'Empire romain de type patriarcal. La tendance est perpétuellement au matriarcat, avec du même coup des femmes guerrières qui soutiennent les hommes dans les moments les plus dangereux. On est tout de même très surpris de constater que dans certains cimetières ou certaines sépultures, au moins 30% des sépultures féminines ont des squelettes accompagnés par des armes. Donc la femme guerrière est un phénomène social que l'on ne peut plus nier maintenant grâce aux fouilles archéologiques. Et ça permet de réévaluer tous les récits affolés que les historiens grecs puis les historiens latins ont fait en nous parlant des Amazones. On a longtemps cru que les Amazones n'existaient pas, que c'était un fantasme masculin d'hommes persuadés que les femmes sont supérieures aux hommes et qu'elles veulent toujours détruire les hommes. Qu'est-ce que c'est que ce texte d'Hippocrate, par exemple, qui affirme que les femmes, lorsque leur fille commence à devenir adulte, leur imprime un fer chaud sur le sein droit pour faire disparaître le sein droit et leur permettre de tirer à l'arc beaucoup mieux et du même coup d'être des guerrières émérites et des cavalières émérites. Mais quand on constate que les fémurs des squelettes féminins dans les tombes sont courbés par la pratique de la vie à cheval, on est bien obligé d'accepter la véracité du texte à partir de ce moment-là. C'est un phénomène très curieux, d'autant plus curieux que les géographes et les historiens grecs et romains ont été partagés eux-mêmes entre le scepticisme absolu et la croyance absolue dans l'existence des Amazones. Je crois que le mythe des Amazones, qui a été très très répandu et qui est répété sans arrêt par tous les historiens jusqu'au 6e, 7e siècle, peut être authentifié par le résidu historique que constitue incontestablement l'existence d'un groupe de femmes guerrières dans toutes ces tribus. On a même un texte chinois qui nous dit qu'elles ne sont plus guerrières et qu'elles se sont fixées, qu'elles sont devenues sédentaires, probablement dans le Xinjiang actuel.
Alors nous allons voir, Michel Rouche, le rôle des femmes aussi dans la civilisation nomade, la civilisation des Huns. C'est ce que je vous propose de voir dans un instant.
Écoutez l'historienne Hélène Carrère d'Ancos raconter Nicolas II, le fils de Nicolas Ier, qui reste associé au printemps de la Russie. Écoutez également Hélène Carrère d'Ancos expliquer l'histoire de l'Académie française en tant que secrétaire perpétuelle de cette Académie. Écoutez enfin son discours sous la coupole consacré à Pierre Corneille. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademie.com.
Je reçois au micro d'un jour dans l'histoire Michel Rouche, historien, auteur d'une biographie d'Attila, Attila, la violence nomade, un ouvrage paru chez Fayard. Alors Michel Rouche, nous avons décrit, esquissé cette partie géographique, l'Est, et alors il y a un empire, vous décrivez bien qu'il existe, un empire Go avant l'empire Hun. En face de cet empire Go, il y a un empire romain. Quel est, à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle, en quelques mots, la situation de cet empire?
L'Empire romain est sur la défensive depuis la fin du IIIe siècle. Il a été sauvé par les empereurs illyriens, c'est-à-dire les empereurs issus du territoire qui fait le pont entre la Grèce et l'Italie et qui correspond en gros à la Yougoslavie disparue. cette terre romaine est donc le lieu de rencontre de l'Empire romain avec l'Empire gothique d'Hermanaric dans le sud de l'Ukraine et plus tard l'Empire d'Attila. La rive gauche du Danube et la rive droite du Rhin sont des territoires où les nébuleuses tribales se déplacent régulièrement sans aucune règle précise. Les germaniques n'en sont pas au stade de l'État, alors que Rome a construit un État, une Respublica. Rome a des fonctionnaires civils, des fonctionnaires militaires, pratique la justice selon un code de droit écrit, le code théodosien qui a été promulgué en 438. Et il y a une véritable organisation financière, économique et militaire de cet empire romain qui, pour des raisons de stratégie, a fini par adopter la division en deux à partir de 395. D'un côté, l'empire romain d'Occident, l'empereur siégeant à Ravenne. De l'autre côté, l'empereur romain d'Orient siégeant à Constantinople. Les deux empires, de plus, viennent d'adopter en 392 le christianisme comme religion d'État, et ils sont en proie, à l'époque qui nous intéresse, à de fortes querelles sur le plan dogmatique et sur le plan théologique, en particulier pour les questions trinitaires. Et ceci est important parce que ces querelles trinitaires, en fait, ont des conséquences sur le plan politique. Si les définitions de la Sainte Trinité sont refusés par les empereurs, ceci leur permet de construire un système complètement totalitaire où politique et religion sont confondues. Alors que les définitions de la Trinité telles qu'elles sont faites par le Concile de Constantinople puis le Concile de Chalcédoine, insistant sur le fait que Dieu est un être de relation, la possibilité de construire un système politique complètement totalitaire où l'État l'emporte sur l'Église est beaucoup plus forte dans ces cas-là. Donc, les querelles religieuses jouent un rôle dans la guerre contre Attila et contre les Huns, alors que les Huns, eux, en sont encore à un stade religieux très primitif, qui est le stade du chamanisme, de la divination de l'avenir et de l'existence de prêtresses. On retrouve une fois de plus les femmes qui prédisent l'avenir et qui ont un rôle très important dans les sociétés nomades.
Alors, qui dit Empire romain dit armée romaine. On le sait ô combien elle est importante. Je renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée avec Yann Le Boeck. Et vous présentez ce phénomène de la barbarisation de l'armée romaine. Est-ce que ce n'était pas finalement un moyen de faire entrer le loup dans la bergerie ?
Si, et c'était même extrêmement dangereux. Mais l'introduction de ce que les Romains appelaient les auxiliaires dans l'armée romaine a été créée par le fait que, premièrement, les citoyens romains ont cessé de vouloir se battre dans l'armée romaine. Rappelez-vous, le Martin, originaire de Pannonie, son père l'oblige à devenir soldat dans l'armée romaine. Donc il y a d'abord un refus de l'armée chez les citoyens romains. Ensuite, il y a le fait que cette armée étant bien payée et de plus en plus payée avec des pièces d'or, devient un lieu où l'on peut obtenir beaucoup plus rapidement la citoyenneté romaine et par conséquent, beaucoup de barbares cherchent à s'engager dans l'armée romaine pour participer aux bienfaits de la civilisation romaine, au luxe, aux thermes, aux jeux du cirque, etc., etc. Et donc, la barbarisation se fait progressivement, et elle se fait progressivement avec des à-coups brutaux, notamment après la bataille d'Andrinople en 378, où Théodose Ier est obligé d'engager de plus en plus des Goths dans l'armée, ce qui fait que l'armée romaine, entre guillemets, pendant tout le 4e et le 5e siècle, est en fait une armée en grande partie barbare, une grande partie germanique.
Mmh. Oui, vous écrivez jusqu'à la fin du 4e siècle, la moitié des généraux étaient encore romaines. Après 400, il n'y en eut plus un seul, surtout avec les rois goths nommés généraux par les empereurs.
Et par conséquent, le problème est de savoir quelle est la vitesse d'assimilation des germaniques dans l'armée romaine pour que, effectivement, Rome continue à se défendre. On constate une chose sur le plan historique, il n'y a que les Francs qui se romanisent plus vite que les autres. Et on a d'ailleurs la preuve par le fait qu'au IVe siècle, il y a de nombreux consuls romains qui sont francs, alors que pour les autres peuples, il y en a pour ainsi dire très peu. Les Francs constituent l'exception assimilée.
Alors, dans le chapitre 4 que vous avez intitulé « Le grand choc », vous présentez précisément cette opposition entre les Huns et les Romains. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est la force, on appellerait ça aujourd'hui dans le langage moderne, la force de frappe, hein, la surprise qu'a constitué cette invasion.
Une tornade tombée des montagnes, dit Amiens Marcellin, qui est contemporain et qui a décrit la défaite d'Andrinople de manière absolument catastrophée. Les nomades cavaliers venus d'Asie centrale ont en effet des méthodes de guerre et un armement inconnu des Romains qui va bouleverser complètement la défense des armées romaines.
Mais est-ce qu'on sait d'où ils viennent ? Est-ce que les écrivains du temps arrivent à définir leurs origines ?
Il semble qu'ils soient eux-mêmes très surpris par cette arrivée de tribus rigoureusement inconnues. On a longtemps discuté pour savoir s'il s'agissait de nomades venus de Chine ou des frontières au-delà de la Grande Muraille. Il semble que dans la situation actuelle, il s'agisse de tribus qu'on appelle dans les annales chinoises les Quen, et ce qui donne en latin Kuni. Et le « qui » en grec étant aspiré, ça donne « huni »,« un ». Les « un » avec un « h » aspiré sont une minorité de cavaliers pratiquant le tir à l'arc à double courbure qui, petit à petit, par leur violence extraordinaire, leur capacité extraordinaire de cavalier, vont agglutiner autour d'eux toutes les tribus nomades qu'ils rencontrent, puis même les tribus semi-sédentaires germaniques. Ils ont une capacité, non pas d'assimilation, mais d'agglomération des peuples qu'ils dominent les uns après les autres.
Vous comparez cela à une partie de dominos, en fait, enfin à des dominos qui se jettent les uns contre les autres.
Et parce que chaque fois qu'ils battent une tribu nomade, ils la mettent sous leur domination, et ils parviennent à l'utiliser, à le retourner contre l'adversaire. C'est ce qui fait que lorsque les Huns ont dominé les Alains leur permettent de dominer ensuite les Taïphales, puis les Goths, puis les Gépides, etc. etc. Et petit à petit, ils forment ce que j'appelle une espèce de multinationale ethnique qui est littéralement condamnée à vaincre, puisque les vaincus ne restent avec le vainqueur que dans la mesure où la victoire est là et où le partage du butin est de plus en plus important. Et du même coup, cette multinationale ethnique est dirigés par des Huns qui sont complètement minoritaires. L'armée des Huns devient de plus en plus énorme, mais la base essentielle, ce sont les Goths, en particulier les Ostrogoths, qui ont joué un rôle fondamental dans toutes les opérations militaires des Huns.
Ce qui est étonnant à vous lire, c'est qu'alors que l'on pense à une opposition frontale de civilisation ou de culture, malgré tout, c'est-à-dire d'un point de vue politique, vous le montrez d'ailleurs dans le cas d'Andrinople, que vous qualifiez de commencement de la fin, il y a une complicité d'une partie de la population et il y a une perméabilité des deux côtés.
Oui, parce que le gros problème de la civilisation romaine, c'est le poids de la fiscalité. La fiscalité est extrêmement complexe. Le système fiscal romain est prodigieusement compliqué. C'est Rome qui a inventé les trois tiers provisionnels dans la levée de l'impôt, qu'il s'agisse de l'impôt foncier ou de la capitation. Et par conséquent, comme il faut à tout prix que les recettes fiscales soient importantes pour payer l'armée, les recettes, on les augmente sans arrêt en alourdissant le poids de l'impôt. Et donc, il y a une fuite devant l'impôt dans l'Empire romain.
C'est de l'évasion fiscale.
On fuit vers les territoires non cultivés, dans les bois, dans les marécages. Et par conséquent, la matière fiscale, en quelque sorte, s'évanouit. Et puis, il y a aussi le passage chez le vainqueur, qui est d'autant plus attirant que chez le vainqueur, chez les Huns, on ne paiera pas d'impôts. Et donc, que ce soit des esclaves ou que ce soit des citoyens libres, le passage chez les barbares est extrêmement tentant. Malgré tout, et malgré les calculs qu'Attila a essayé de faire, Attila a essayé de s'appuyer sur ces transfuges romains, sur les Bagaudes en particulier, qui étaient très importants en Gaule, il n'y est pas arrivé complètement, parce que l'idéal de vie romain a quand même maintenu une bonne partie de la population romaine dans le giron de l'Empire romain. Et la civilisation romaine n'a pas vraiment disparu devant le choc des nomades. Mais en sens inverse, les cavaliers huns ont été tentés de s'engager dans l'armée romaine contre des soldes extrêmement importantes. Et on a même cru, et Attila l'a cru pendant un certain temps, que une bonne partie des meilleurs cavaliers de l'armée des Huns allaient passer du côté de l'armée romaine. Les transfuges Huns ont joué un rôle capital dans l'Empire romain d'Occident. Aetius, le patrice de l'empereur Valentinien III, qui a été otage pendant sa jeunesse chez les Huns, a gardé des liens très étroits avec les Huns et a pu engager des transfuges pendant de nombreuses années, ce qui fait que l'Empire romain d'Occident a connu la paix quasiment de 404 à 451 grâce à cette alliance avec les Huns. Alors que l'Empire romain d'Orient n'a pas eu cette tentation de soutenir les transfuges et a eu des troupes romaines beaucoup plus structurées, d'autant plus que le système fiscal romain en Orient a été extrêmement efficace et très productif à cause en particulier de l'Égypte. Les ressources fiscales de l'Égypte ont été beaucoup plus importantes en Orient qu'en Occident, alors qu'en Occident, l'Occident a fini par faire faillite avant même la chute de l'Empire.
Alors, il y a une influence unique. Vous citez une anecdote extraordinaire. Vous parlez du père de Clovis, donc Childéric, dont on a retrouvé la tombe à Tournai. Vous écrivez « Le père de Clovis a beau avoir été enterré dans un costume de général de l'armée romaine, ses armes et ses bijoux sont typiquement d'origine pontique et unique. » C'est dire l'influence du monde des steppes de l'Asie à l'Europe, du Kazakhstan à la Moldavie et au Rhin. Cela nous amène finalement à cette supériorité militaire des Huns qui est réelle et qui est fondée sur un armement qui nous paraît beaucoup plus performant que ne l'était celui des Romains.
Sauf en ce qui concerne Napoléon Sétique, les Huns sont nettement supérieurs au point de vue armement aux Romains. D'abord à cause de l'arc à double courbure, qui est une merveille d'habileté artisanale, fabriquée avec des plaques d'os et des branches d'arbres extrêmement souples. Cet arc à double courbure permet de lancer une trentaine de flèches très rapidement à plus de 150 mètres de distance et à une capacité de perforation de l'adversaire qui est extraordinaire. On connaît des flèches de ce type d'arc qui ont perforé la cuirasse complète de l'adversaire. De plus, ces archers pratiquent la tactique de la fuite simulée, c'est-à-dire qu'ils font comme les cavaliers partent, ils simulent la fuite. Puis lorsque leurs poursuivants se dispersent petit à petit, les plus rapides étant en tête, les plus lents à l'arrière, ils se retournent brusquement sur leur cheval et lancent vers le premier arrivant, le deuxième ou le troisième, une flèche mortelle qui abat les meilleurs éléments des poursuivants. Et ceci d'ailleurs grâce à l'existence d'une selle en bois qui permet aux cavaliers de rester bien fixés sur leur cheval sans risque de tomber, d'autant plus que peut-être utilisaient-ils une espèce d'étrier primitif en cuir qui leur donne une très grande stabilité en attendant les étriers en fer que les avares plus tard ont utilisés et qui permettent aux cavaliers de se dresser sur le cheval et de tirer avec encore plus de précision. Mais la fameuse légende de la viande qui serait mise à cuire en quelque sorte sous la selle des chevaux des Huns est quelque chose de complètement imaginaire. Amiens Marcellin a raison de citer cette pratique, mais il ne l'a pas comprise. Tous les cavaliers qui ont vraiment vécu à cheval savent qu'une selle inflige plus ou moins des blessures au dos du cheval et que le simple fait de mettre quelques morceaux de viande fraîche sur la plaie finit par les cicatriser beaucoup plus rapidement. Donc en réalité, ce n'était pas une preuve de barbarie, c'était plutôt une preuve de capacité de connaissance et d'exploitation dans toutes ses meilleures conditions des possibilités d'un cheval.
Je reçois Michel Rouche, médiéviste et auteur du livre « Attila, la violence nomade » paru aux éditions Fayard. Nous nous retrouvons dans un instant.
Brigitte Engerer est une pianiste adorée en France, vénérée à l'étranger. Son élan naturel la porte vers les pages romantiques du clavier, mais elle se sent bien aussi devant une partition de musique contemporaine. La pianiste nous a reçus chez elle, à Paris, pour un entretien personnel sur ses années en Russie, sur sa peur des studios d'enregistrement et son amour des œuvres vocales. Cet entretien est en libre écoute et téléchargement sur canalacademy.com.
Nous entamons la troisième partie de cette émission consacrée à Attila et à cette civilisation nomade. Nous en étions au choc, et notamment au choc militaire, puisque vous avez démontré, Michel Rouche, la supériorité militaire de ces armées. Pourtant, l'apogée d'Attila, vous qualifiez l'apogée d'Attila, vous la situez entre les années 435 et 452. Finalement, c'est très court comme période.
C'est extrêmement court parce que la montée a été relativement lente, mais en même temps sûre. Et lorsque la domination des Huns apparaît aux yeux effarés de Théodose II, empereur romain d'Orient, et de Valentinien III, empereur romain d'Occident, il est en quelque sorte trop tard. La puissance est déjà complètement affirmée. Et il s'agit d'un véritable empire du Nord qui n'entre pas sur le territoire romain, sauf dans la Hongrie occidentale, le territoire de la Pannonie, et qui va du Danube aux territoires arctiques. Et par conséquent, on prend brusquement conscience de l'existence de cet empire, d'autant plus que pour l'Empire d'Orient, Attila et ses prédécesseurs exigent à chaque fois qu'ils sont vainqueurs un tribut payé en livres d'or. Ce qui est un comportement complètement différent des autres barbares. Les autres germaniques cherchent une patrie, cherchent à s'implanter en territoire romain, comme les Visigoths comme les Vandales. Eux sont là en quelque sorte pour vider l'Empire romain de toute sa richesse. Parce que ce qui les intéresse, c'est l'or, et les épopées germaniques le répéteront plus tard sans arrêt. Par conséquent, l'Empire romain d'Orient en particulier, qui paie régulièrement un tribut annuel, est persuadé que ces barbares ignorent ce que c'est qu'un système fiscal, ignorent ce que c'est qu'un État organisé, ne se rendent pas compte des recettes de l'Empire romain d'Orient. On peut très bien leur accorder le montant du tribut qu'ils doublent régulièrement chaque année. L'Empire romain d'Orient peut toujours payé. Il s'agit d'une ponction quasiment homéopathique et qui est largement inférieure aux dépenses militaires que nécessiterait la guerre contre les Huns. Donc, pendant un certain temps, cet empire Hun se développe de manière quasiment sans obstacle. Et au bout d'un certain temps, il y a des gens qui prennent conscience que mais cette situation est une situation absurde. Complètement absurde. Comment se fait-il qu'avec si peu de cavaliers et des troupes germaniques en très grande quantité, l'Empire romain soit quasiment à genoux, aussi bien en Occident qu'en Orient? Et commence à monter alors chez certains membres de l'aristocratie ou de l'élite de ces empires le désir de poser un cran d'arrêt. Alors ce cran d'arrêt arrive lorsque Attila, dans son désir de toute puissance, commence à donner des preuves de véritable excès dans ses exigences. Et les ambassadeurs romains qui vont voir Attila en 449 dans son palais de bois sur les rives de la Tisza sont absolument stupéfaits des exigences de cet homme. Ils se disent « mais où va-t-il s'arrêter ?» D'où la première tentative de l'eunuque Chrysaphios de Théodose II, premier ministre en quelque sorte de l'Empire romain d'Orient, de monter un complot contre Attila pour le faire assassiner. Il s'y est mal pris.
Il va échouer lamentablement.
Il a échoué lamentablement, il a choisi le mauvais cheval. Et le complot étant dénoncé à Attila, Attila réclame que l'eunuque Chrysaphios lui soit livré. Ce que l'empereur Théodose II finit par refuser quand même. Le refus est venu d'ailleurs. Le refus est venu d'une part de Geneviève à Paris en 451, de Pulchérie, la femme de l'empereur Martien, en 452, et surtout du fait que Théodose II, qui était un homme particulièrement doux et bénin, est mort des suites d'une chute de cheval et a été remplacé par un vieux général à la retraite, l'empereur Martien, qui, à partir de 451, a dit « ça suffit ». Il y a eu un moment à partir duquel l'Occident et l'Orient ont dit « non ». Et brusquement, l'apparence de victoire d'Attila, la politique terroriste qu'il pratiquait jusqu'alors, qui consistait essentiellement à créer une onde de panique à travers tous les territoires pour pouvoir piller ensuite tranquillement les villes abandonnées par leur population, brusquement sont percés à jour les ressorts psychologiques de sa politique.
C'est ce qui est extraordinaire, c'est que on pourrait, à l'heure où l'on vit dans un monde surmédiatisé, eh bien, du temps de l'Empire romain, il existait une rumeur publique et le système, si tant est que l'on puisse parler de système, la volonté d'Attila était notamment appuyée par cette terreur qu'il engendrait.
Il a deux moyens pour engendrer la terreur. Première méthode, il choisit une ville riche et bien peuplée, il l'attaque, la prend d'assaut, la vide de ses habitants, brûle la ville en entier et puis ensuite l'annonce de cette destruction est répandue à travers tout le monde romain. C'est ce qui se passe par exemple pour la destruction de Margus sur la rive droite du Danube, puis la destruction de Metz en 451, puis la destruction d'Aquilée en 452 et à chaque fois il y a une destruction exemplaire, une politique de terreur exemplaire qui va, en quelque sorte, tétaniser les populations qui se mettent à fuir. Par exemple, les Milanais ont fui tellement rapidement qu'ils n'ont jamais vu les Huns, mais les Huns, du coup, ont pu rentrer dans Milan tranquillement et piller la ville sans que personne ne s'y oppose. Et leurs chariots ont pu repartir vers les bords du Danube et de la Tisza, chargés de butin sans qu'on les poursuive. La tactique était parfaitement au point. Et puis surtout, il y a une deuxième chose, il y a un deuxième élément dans la supériorité d'Attila sur le plan psychologique. Ce sont ses méthodes de justice. Qu'il s'agisse des ambitieux à l'intérieur de l'Empire I, les familles royales uniques, ou qu'il s'agisse des espions qui s'introduisent dans l'Empire I, la méthode est extrêmement simple, le supplice du pal. Et les personnages empalés au bord des routes, tandis que les vautours et les aigles viennent dévorer les cadavres au bord de la route, sont un autre moyen de dissuader les adversaires de s'attaquer à Attila.
Alors, ils avaient bien d'autres mœurs, d'ailleurs, que vous décrivez, le boire le sang de...
Boire le sang de l'adversaire.
De l'adversaire dans son crâne. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage. Vous décrivez cela. Je voudrais revenir au fait militaire en lui-même. Donc, il y a Geneviève, il y a la Gaule. Et la Gaule constitue un coup d'arrêt. C'est la fameuse bataille des champs cataloniques de 451. Mais cette bataille n'apparaît pas tant comme une véritable défaite pour Attila qui part en retraite, mais il n'est pas vaincu.
Il n'est pas vraiment vaincu parce que, d'une part, la coalition contre lui est parfaitement hétéroclite. Geneviève et Aétius sont parvenus à agglutiner ensemble des gens qui, normalement, n'auraient pas dû s'entendre. Premièrement, les Visigoths-Ariens qui dirigeaient la région de Toulouse et qui sont venus au secours d'Orléans parce qu'ils savaient très bien que Attila voulait soumettre les Visigoths. C'était les derniers germaniques à ne pas obéir aux Huns. Ensuite, les Francs saliens de Tournai, qui, eux, ont l'habitude d'être des alliés de Rome et qui, d'habitude, viennent au secours de Rome, mais qui sont païens. Et puis, il y a les dernières troupes romaines squelettiques qu'Aetius amène péniblement depuis l'Italie et qui, elles, sont catholiques. Donc, on a une coalition complètement hétéroclite, avec, en plus de cela, dans la bataille des champs cataloniques, le rôle des Alains, qui ont abandonné la domination des Huns en 406 et qui sont des cavaliers lourds, des cavaliers cuirassés avec une lance de longue de 3 mètres, qui, à mon avis, sont les grands vainqueurs de la bataille des champs cataloniques parce que ce sont eux qui ont enfoncé le front des Huns tandis que les Visigoths et les Ostrogoths s'égorgeaient mutuellement sur l'aile droite de l'armée. Deux armées germaniques, finalement, l'une contre l'autre, probablement 25 000 hommes de chacun des côtés. Ce qui fait qu'à peine la bataille s'est-elle terminée le soir avec la mort du roi des Visigoths, que la coalition se disperse très 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 rapidement et que Attila peut se retirer tranquillement, n'étant pas vraiment vaincu. Mais il a préféré repartir, ses chariots étaient pleins de butin.
Alors Attila repart et je lis le comte Marcellin qui précise « Attila, roi des Huns, ravageur de la province d'Europe et transpercé la nuit par la main et le couteau d'une femme. Certains, cependant, prétendent qu'il fut tué par un vomissement de sang. C'est un homme qui inspirait la terreur, qui inspirait en son temps la terreur, puis bien au-delà, et c'est un homme qui meurt dans son lit.
Oui, un homme qui meurt dans son lit après une deuxième expédition en Italie où le pape Léon le Grand l'a dissuadé de faire la guerre. Et où il est reparti, là encore, avec des chariots pleins de butin. Et il comptait recommencer pour la troisième fois. Et il a célébré ses noces avec une princesse germanique d'une tribu inconnue, Ildiko. Et après un grand banquet de mariage où il a bu par trop, il s'est trouvé en état d'ivresse tel que probablement la version de l'épistaxis est peut-être plus crédible que l'autre. Toujours est-il qu'au petit matin, les gardes d'Attila, incapables de briser les portes de l'habitation de bois dans laquelle ils se trouvaient, tellement ils avaient peur de lui, finissent au bout d'un certain temps par briser la porte et trouve effectivement Attila mort dans une mare de sang, la princesse Ildiko pleurant sous son voile auprès d'Attila.
Mais vous dites qu'au fond, il est mort à cause finalement de la peur qui l'engendrait.
C'est cela qui est important. Et les gardes n'ont pas osé intervenir.
Alors qu'on aurait pu intervenir et le sauver.
Un simple saignement de nez est parfaitement guérissable. On serait intervenu immédiatement, il était guéri. Là, on a attendu plus de 12 heures presque, et c'est ça qui fait qu'il en est mort. Et immédiatement après sa mort, étant donné sa polygamie et les nombreux fils qu'il avait, ceux-ci ont voulu se partager l'empire et s'attribuer telle ou telle tribu. Et les tribus de la multinationale ethnique se sont alors révoltées et dans toutes les directions. Ils sont partis, chacun de leur côté. Seuls les Goths, pendant encore un certain temps, sont restés fidèles. Ouin. C'est extrêmement curieux, hein, d'autant plus que c'est le peuple gothique, plus tard avec Théodoric, qui est arrivé à une certaine stabilité en dominant l'Italie avec le fameux et le célèbre Théodoric le Grand.
Alors après cette disparition, nous arrivons au bilan finalement, et vous posez la question sur cette pérennité de l'Empire romain. Attila est un coupable idéal pour expliquer la chute de l'Empire. Or, vous dites qu'effectivement, il faut nuancer ce propos. Il a peut-être contribué ou il a contribué à, mais il n'est pas la cause unique.
Il n'est pas la cause parce qu'il y avait des causes internes pour l'Empire romain d'Occident, je l'ai déjà dit. L'Empire romain d'Orient, lui, a parfaitement résisté et l'empereur Martien peut être considéré comme le véritable vainqueur. Et puis, la seule destruction qu'on peut vraiment lui attribuer comme étant une destruction importante et définitive, c'est celle du territoire de l'Illyricum, où, occupant la Pannonie, c'est-à-dire la Hongrie occidentale, il a vraiment coupé ce véritable pont continental qui reliait l'Occident à l'Orient. Sa responsabilité, elle est surtout d'avoir en quelque sorte brisé l'Europe centrale. Mais avoir fait succomber l'Empire romain, non. D'abord, l'Empire romain a continué en Occident après lui, jusqu'en 476, et l'Empire romain d'Orient, lui, s'est toujours maintenu. Il n'était pas celui qui pouvait occuper l'Empire romain, parce que ce n'était pas son but. Il ne rêvait que d'une chose, c'était de vider l'Empire romain de son or. Lorsqu'il est arrivé à Milan, il a vu une fresque sur laquelle étaient représentés les deux empereurs romains recevant la soumission des rois huns. Il a immédiatement ordonné qu'on efface cette fresque et qu'on mette à la place une autre fresque représentant Attila avec les deux empereurs romains venant déverser à ses pieds des sacs remplis de pièces d'or.
En fait, il n'a pas une volonté de rupture, de couper, de détruire l'Empire romain.
Pas du tout.
Il n'a pas de projet politique.
Il n'a pas de projet politique, puisqu'il ne sait pas ce que c'est qu'un État.
Alors, Attila, bien évidemment, est arrivé jusqu'à nous, grâce à votre ouvrage, bien évidemment. Mais au fond, Attila, vous le dites dans votre avant-propos, vous reprenez une annonce à vendre. Attila, 9 mois, Rottweiler de race, pris à débattre. Le nom d'Attila est associé généralement à la terreur et il a été repris au fil des âges. Quelle est la postérité de son nom ?
La postérité, elle apparaît dès son vivant, puisque c'est un homme habile à créer la terreur. C'est sa grande force. Il sait créer des ondes de panique. Et lorsque, au banquet auquel assiste l'ambassadeur Priscus, les bardes, les chanteurs, se mettent à jouer et à chanter les victoires d'Attila et des peuples huns, nous voyons s'élaborer les épopées uniques puis germaniques qui ont véhiculé à travers toute l'histoire dans le monde européen, la légende des grandes victoires des Huns, en particulier l'écrasement des Burgondes par les Huns. Et ces épopées ont été de plus en plus transportées, transformées dans différents pays. Elles sont devenues de véritables mythes, mais derrière le mythe, il y a un fond historique extrêmement important. Et qu'il s'agisse des épopées concernant d'abord Atli et les Scandinaves, puis ensuite les Nibelungs germaniques. On a une première série d'épopées scandinaves du 5e au 9e siècle, une deuxième série avec les Nibelungs du 11e au 13e siècle. Et à partir du rôle décrit par les chanteurs épiques des reines et des femmes dans la mort d'Attila, Attila qui est présenté dans un premier temps comme un roi bon et généreux, puis dans un deuxième temps comme quelqu'un d'extrêmement cruel et qui est littéralement aux mains des femmes en même temps. La légende de Kriemhild et de Brunhild nous montre un rôle fantastique accordé aux femmes, et peut-être s'agit-il là aussi d'un souvenir de ces civilisations nomades où les femmes jouent un très grand rôle dans la survie et dans la guerre. Les meurtres commis par Kriemhild sur la personne des fils d'Attila sont absolument horribles, absolument affreux, en même temps que l'on voit aussi se développer le souvenir de l'or qui a été accumulé par les Huns dans leur palais. Et l'or du Rhin est devenu ensuite le grand thème de Wagner au XIXe siècle. Et cette série de légendes sur Attila prouve à quel point l'inconscient européen reste hanté par cet homme qui a répandu la panique.
Et toujours vivant aujourd'hui.
Toujours vivant aujourd'hui et dans une perspective païenne, dans une perspective de croyance en un destin inéluctable. Seul contre la mort. La mort est seule véritablement héroïque. Et par conséquent, la destruction, la violence sont la preuve de l'authentique virilité. Donc, lorsque des musiciens comme Wagner au XIXe siècle montent un véritable cycle d'opéra autour du thème d'Hetzel et puis de Siegfried qui devient le héros principal, parce que lui au moins, Siegfried est présenté comme quelqu'un qui est toujours vainqueur, il n'est pas comme Attila qui est mort, eh bien ce style d'épopée, cette pensée païenne où la mort et l'héroïsme sont confondus, ce culte du sang, de l'or, nous le retrouvons chez Adolf Hitler, lecteur de la revue L'Ostara, qui était une revue néo-païenne autrichienne d'avant 1914, et nous savons qu'il a nettement été influencé pendant sa vie par les souvenirs des légendes des germaniques, des temps où les germaniques dominaient le monde. On oublie les Huns, évidemment, mais le problème est à peu près le même. C'est une véritable résurgence d'un idéal de violence de l'époque d'Attila.
Alors, il y a une déception, Michel Rouge, finalement, sur cet Attila, c'est que nous n'en avons strictement aucune représentation.
Aucune. Seuls les Vénitiens se sont tentés et ont tenté de faire des représentations, mais elles sont caricaturales. On a un magnifique disque de marbre représentant Attila comme un véritable bouc avec des cornes et une barbiche de chèvre. Mais même la monnaie frappée par les Vénitiens au XVIe siècle pour commémorer la destruction d'Aquilée par Attila reste encore une caricature. Et de toute façon, nous ignorons l'endroit où il a été enterré. Sa tombe est secrète, comme toutes les tombes des grands chefs de guerre de l'époque des invasions.
Eh bien, c'est sur cet imaginaire, Michel Rouge, que nous allons nous quitter. Je vous remercie vraiment pour cette histoire passionnante. Attila, la violence nomade, un ouvrage paru chez Fayard. Et je ne demande pas de citer également, paru aux presses universitaires Septentrion, Le choc des cultures, romanité Germanité, chrétienté durant le Haut Moyen-Âge, un livre pour aller bien plus loin, beaucoup plus scientifique. Merci beaucoup, Michel Rouche, et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un prochain numéro d'Un jour dans l'histoire.
Je vous remercie.